Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Troubles du sommeil, agitation, prise de risque. Les parents se trouvent parfois débordés par leurs enfants et leurs adolescents. Ils ne savent pas comment s'en sortir, à qui s'adresser. On va voir que la parole joue un rôle essentiel et même l'ado le plus mutique peut se mettre à parler. Alors comment aider les enfants à surmonter les difficultés? Quel est le rôle du pédopsychiatre? D'ailleurs, que se passe-t-il franchement dans un cabinet de psy? On parle de quoi? Mon invité, le professeur Philippe Duverger, est chef du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au CHU d'Angers. Il a publié « La petite voiture rouge au fond de mon tiroir » et « Autres rencontres extraordinaires » aux éditions Anne Carrière. Si vous avez envie de lui poser des questions et d'apporter un témoignage, appelez-nous au 33 1 84 22 75 75. Et dans cette émission, on aura également au téléphone le docteur Ali Njoukandi, qui est pédopsychiatre au centre de neuropsychopathologie de l'université de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et on retrouvera Sylvie Hesbrook, qui travaille sur les émotions. Elle nous parlera des doudous.
RFI.
Professeur Philippe Duverger, vous présentez votre métier comme un métier de rencontre. C'est tout simplement ça, le boulot d'un pédopsy?
C'est surtout ça. C'est surtout ça, d'essayer de rencontrer les enfants, d'essayer de les retrouver, dans la mesure où on peut imaginer qu'à un moment donné, pour une raison X, ils se sont un peu perdus. D'essayer de les retrouver et d'essayer d'être à la hauteur de la confiance qu'ils mettent en nous. Et que ce soit un enfant tout petit, un plus grand, que ce soit un enfant malade, un enfant qui a des soucis dans sa tête, enfin, en tous les cas, c'est d'essayer de le rencontrer et donc de se mettre à sa hauteur pour comprendre avec lui ce qui lui arrive.
Et ça, même avec des tout petits bébés, il y a rencontre. Et vous commencez justement par raconter l'histoire d'une femme qui attendait des jumeaux. Un seul est venu au monde, Jules, et vous racontez cette rencontre avec Jules alors qu'il vient de naître.
Oui, on me demande à cette occasion de rencontrer cette maman dans un service de néonatalogie parce qu'elle vit quelque chose de très douloureux. Elle était enceinte de deux bébés et un est décédé. Et donc elle est entre la vie et la mort, entre la naissance d'un de ses enfants et puis
entre la joie et la tristesse.
Absolument, dans une contradiction très douloureuse et très difficile. Donc on me demande de la rencontrer, j'arrive en néonatalogie et puis je la vois, mais je vois surtout un bébé et il y a une vraie rencontre avec ce bébé.
C'est-à-dire quoi? Il vous regarde?
Il me regarde. Mais plus que ça, je dirais, tout d'un coup, il m'adresse quelque chose dans son regard. C'est pas simplement, c'est comme ça que je le comprends, hein. Il ne me voit pas, il me regarde. Et plutôt que de le dévisager moi-même, hein, je suis pris dans ce regard et j'envisage, plutôt que de dévisager, hein, j'envisage un petit peu, qu'est-ce qui lui arrive? Je me mets à penser pour lui. Et c'est une vraie rencontre. L'histoire.
Et qu'est-ce que vous lui dites, au bébé ou à la maman d'ailleurs, aux deux?
Je lui dis bonjour, je lui demande ce qui lui arrive, j'essaye de mettre des mots sur une situation qui sidère tellement elle est difficile à penser. Et donc d'essayer de commencer à écrire une histoire, quoi, et peut-être de l'écrire avec des mots qui sont moins douloureux que...
Et Jules, vous allez le revoir?
Voilà, alors ça va plutôt bien se passer, je vais suivre cette maman, puis elle va aller mieux, elle va être de nouveau enceinte, enfin voilà. L'histoire va aller un peu mieux, et puis quelques années plus tard, cette maman et ce couple me demandent de revoir leur bébé, Jules, hein, il s'appelle Jules, et je vais le revoir, donc je crois que c'est 5 ans plus tard. Et quand je le revois, j'ai l'impression que je l'ai quitté hier. Et lui-même aussi. C'est-à-dire qu'il va s'installer dans mon bureau. Il va faire comme si on se connaissait déjà. Et c'est là que c'est peut-être dans l'après-coup, le témoignage qu'au fond, il y a déjà eu une rencontre. Et je le trouve pas dans mon bureau, je le retrouve. Et à ce moment-là, il va me raconter ce qu'il a vécu, il va me raconter, ce qui est peut-être un peu difficile pour lui, ce fantôme, hein, ce frère qui n'est jamais né, mais qui pourtant existe, et donc comment ce fantôme peut être envahissant, et comment ça peut le troubler, comment ça peut le gêner. Et je raconte dans le livre l'histoire de cette rencontre qui va se faire à plusieurs moments.
On va voir tout au long de cette émission que votre métier va plus loin qu'une simple rencontre. On va essayer de comprendre justement qu'est-ce qui se passe dans un cabinet de pédopsie. Et C'est pour mieux comprendre justement à quoi sert un pédopsychiatre. Igor Strauss s'est rendu à la maison des adolescents de l'hôpital Robert Debré à Paris. Il a rencontré Wendy qui a 13 ans. Elle sait que les scarifications sont dangereuses, mais finalement, elle va nous expliquer qu'elle veut continuer à en faire.
Ma mère m'a inscrite ici par rapport à des problèmes personnels. Je me scarifiais. Donc je vois un médecin spécialisé et un psychologue. On a tous a priori de le psychologue, c'est pour les fous. Donc je parlais pas beaucoup, je répondais aux questions, mais c'est plus après que j'ai plus souvent dit des choses. Je pensais pas que ça allait servir et en fin de compte, en fait, si ça sert plus que ce que je pensais.
Pourquoi est-ce que tu pensais que ça pouvait pas t'aider?
Parce que je suis très solitaire. Si moi j'arrivais pas à m'aider moi-même, comment eux ils pourraient le faire?
Et finalement, ils ont réussi à t'aider, les médecins?
Je me sens un peu mieux, c'est beaucoup plus clair.
Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ou qu'est-ce qu'ils ont dit, les médecins, pour te mettre en confiance et pour te faire parler, finalement?
Il y a une bonne ambiance, on sent qu'on peut parler, que c'est pas quelque chose qu'ils vont aller raconter. On sent que c'est des gens de confiance. Maintenant, j'aborde des sujets que j'en parle à personne d'autre. J'ai eu mon meilleur ami qui s'est suicidé. Et en fait, depuis, je suis beaucoup plus dans le fait de tout garder pour moi. J'en parle à personne, à part quand je viens ici.
Et pourquoi tu n'en parles pas?
J'aime pas que mes amis se disent qu'il y a son meilleur ami, il est mort, la pauvre, elle a connu un décès.
Et je reviens un petit peu en arrière. Est-ce que tu te scarifiais déjà avant que ton ami se suicide ou pas du tout?
Oui, pour des problèmes avec ma mère, avec mes parents. Et ça m'énervait et je faisais ça pour m'évader. J'aurais pu aimer dessiner, aimer faire du cheval, chanter. Mais non, ça a été la mutilation. Bah, tant que ça me fait du bien, je pense pas que j'arrêterai.
Donc de te mutiler, ça te fait du bien?
Oui. C'est une sorte de jeu, un duel si vous préférez. Entre la vie et la mort, une entaille trop profonde au bon endroit, et paf, tout peut s'arrêter.
Aujourd'hui, tu continues encore ou...
Oui, mais c'est moins fort.
Et tu as pu en discuter avec les psychologues ici?
Oui.
Et alors, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à ça?
Ils ne jugent pas. Si on l'avait dit à des amis, ils pourraient nous dire qu'on est complètement cinglés. Alors que si on le dit au psy, ils vont essayer de comprendre le pourquoi du comment.
Et est-ce que toi-même, tu sais pourquoi tu le fais?
Non. C'est un de mes gros problèmes. Des fois, je peux être bien, et 5 minutes après, le faire parce que je me sens pas bien. Comme je veux arrêter de plus avoir mal, je me fais mal autrement pour oublier l'autre douleur.
Tu te fais mal physiquement pour avoir moins mal moralement, c'est ça?
Exactement. C'est beaucoup plus simple que parler, je trouve. Mais maintenant, je sais que c'est plus la solution.
Mais avec tes parents, tu pouvais pas discuter comme tu le fais avec des psychologues ici?
Non.
Non.
C'est bête, hein, mais en général, on a peur d'être jugé. C'est surtout ça.
Le jugement, c'est un mot qui revient beaucoup. La peur du regard des autres, c'est vraiment quelque chose qui t'effraie?
Oui.
Mais pourquoi? Les autres t'ont déjà blessé par le passé?
Oui. Depuis ma tendre enfance, je suis en surpoids. Je veux bien faire style, ça me gêne pas, ça me dérange pas. Mais on sait tous qu'au bout d'un moment, c'est pas vrai. On peut plus faire semblant.
Alors, imaginons que ta mère ne t'oblige plus à venir ici, que tu aies complètement le choix. Quelle serait ta décision?
J'arrêterai de venir. Il y a une partie de moi qui dit c'est bien, faut continuer, et l'autre qui dit ça sert à rien, c'est totalement nul. J'aime pas parler de mes sentiments, de ce que je ressens. C'est quelque chose qui, pour moi, est assez dur.
Alors, autre paradoxe, tu as accepté de parler à mon micro. Pourquoi?
Je sais que ça peut aider d'autres personnes de savoir ce que moi je ressens.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons du rôle du pédopsychiatre avec le professeur Philippe Duverger. J'ai plein de questions à vous poser derrière ce témoignage de Wendy qui dit beaucoup de choses. La première qui m'a paru très importante, c'est la question de la confidentialité. Ce que vous raconte un enfant et un adolescent, vous ne le dites pas aux parents.
Non, c'est fondamental. C'est que, en effet, l'ado où l'enfant va nous raconter son intimité, va nous inviter dans son jardin secret, à partir du moment où il sait justement qu'on va respecter sa parole. Ça sert à rien qu'il nous dise quelque chose et qu'on le répète à ses parents, autant qu'il s'y adresse directement. Et en même temps, on est supposé savoir peut-être quelque chose qui pourrait l'aider. Et c'est vraiment très important, dans la rencontre, de tisser ce lien de confiance avec le jeune, pour qu'il s'autorise à parler, parce que c'est difficile de parler. C'est peut-être la chose la plus difficile au monde, parler de soi. On peut parler de plein de trucs, hein, mais justement, à partir du moment où il s'agit de révéler une intimité, c'est très compliqué. Donc là, il faut un sacré lien de confiance.
Donc, voilà, donc la confidentialité, vous ne jugez pas l'autre chose que dit Vandy.
Non, mais au nom de quoi d'ailleurs quelqu'un peut juger une autre personne? Surtout pas. Surtout pas, ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin, au contraire, qu'on les aide à trouver la clé pour comprendre. Elle l'a très bien expliqué. Hein. Essayer de comprendre, mais pas, elle n'y arrive pas toute seule. Et elle aurait trop peur d'être blessée. Alors c'est intéressant parce que plutôt que d'être blessée par l'autre, elle se blesse elle-même. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, elle se scarifie. Avoir une douleur...
Ça fait oublier l'autre douleur, elle dit un peu.
Ben oui, comme si une douleur physique pouvait effacer une souffrance psychique. On voit bien comment l'attaque du corps va être une manière un petit peu de soulager la souffrance psychologique. Et comment il faudra essayer avec elle de la rencontrer pour quand même essayer d'en parler plutôt que d'attaquer un corps qu'elle a du mal à investir.
Ce que je trouve aussi intéressant dans ce témoignage, c'est qu'on sent qu'elle a compris plein de choses. Donc il y a déjà tout un travail psy qui a été fait. Et c'est pas pour autant que le problème est résolu. C'est-à-dire qu'il faut du temps.
Il faut du temps. Alors la première chose, c'est qu'il faut pas en plus comprendre à sa place. Ça pourrait être une tentation. Si tu fais ça, c'est parce que ça.
Oui, surtout que vous, a priori, vous devez comprendre assez vite, en fait.
Mais on peut avoir des idées. Et nous, on n'est pas là pour comprendre à sa place ou donner un sens ou plaquer un sens, mais plutôt de l'aider à elle-même trouver son sens. Qu'est-ce que ça peut... Alors, pour ça, on a une manière, justement, hein, on peut en parler, mais encore une fois, c'est fondamental de pas venir, de manière intrusive, hein, mettre le sens que nous, on aurait compris. Là, on est dans une position de docte, de savoir, de docteur. Je sais que si tu fais ça, c'est pour ça. Au contraire...
Et où il y a des risques de manipulation.
Puis elle l'a bien dit, elle a prévenu. Hein. C'est ça la confiance. Moi, je ne suis pas là pour être jugé ou pour qu'on m'explique tout, mais pour être écouté, pour être entendu. Et à ce moment-là, peut-être de cheminer, d'avancer vers une possible compréhension.
Et l'ambivalence, elle le dit bien, elle continue à y aller en partie quand même parce que c'est obligatoire que ses parents l'obligent, que en fait, si on l'obligeait pas, elle irait pas. C'est aussi, ça reste compliqué, c'est pas parce qu'on a frappé une première fois la porte que continuer à aller parler de soi reste simple.
Non, comme je disais, c'est vraiment très difficile, mais progressivement, le but c'est que justement l'adolescent s'approprie ce travail-là, que ce soit pas pour sa mère, pour le docteur, pour je ne sais qui...
Pour faire plaisir.
Pour faire plaisir. Mais au contraire, justement, que l'ado, le jeune, il sente l'intérêt qu'il peut y avoir pour lui.
Dans votre livre, vous racontez, vous avez de temps en temps été confronté à des ados mutiques, hein, on le sait bien, ça peut arriver, ils ne veulent pas parler. Comment vous faites pour trouver la porte d'entrée? Il y en a une à qui vous demandez d'un seul coup, est-ce que vous êtes enceinte?
Oui, c'est d'essayer, alors des fois c'est la surprise, des fois le malentendu, des fois le quiproquo, en tout cas de créer une situation qui permette d'ouvrir une porte. Et oui, parfois c'est l'humour, parfois mais c'est inattendu, c'est ça qui fait la rencontre.
Et de temps en temps, on n'y arrive pas?
Oui, parfois on n'y arrive pas. Il y a des ados qui, en effet, n'ont pas envie de parler. Ils viennent parce qu'il faut. Ils n'ont pas du tout envie de parler. À nous de créer les circonstances d'une rencontre. Alors, le jeu, le dessin, l'humour. Parfois, ça peut même être, je sais pas moi, un jeu vidéo. Enfin, voilà. L'idée, c'est de trouver le moyen d'aller à la rencontre de l'enfant qui s'est perdu quelque part, quoi.
On a Mohamed qui nous appelle de Moroni aux Comores et qui a des conseils à vous demander. Mohamed, bonjour.
Bonjour, bonjour.
On vous écoute.
Bonjour, docteur.
Bonjour.
Alors voilà, je suis papa de jumeaux que je me suis toujours occupé. Et surtout maintenant, depuis que leur maman est partie en formation à La Réunion il y a bientôt 5 ans. Mon garçon a toujours est toujours enrhumé. Excusez-moi parce que c'est la première fois que je parle à la radio.
Mais c'est bien, vous expliquez bien, vous inquiétez pas, on vous entend et c'est bon, continuez.
Mon garçon a toujours eu des problèmes respiratoires depuis sa naissance. Et parallèlement, il a toujours des comportements que j'ai toujours dit, j'ai aussi pensé que c'était dû à ce rhume, le fait qu'il dort pas bien. C'est-à-dire, il est toujours distrait et puis son développement physique est un peu au ralenti. Seulement, maintenant, je me trouve face à un problème qui m'inquiète un peu plus. Oui. C'est qu'il s'enferme dans un monde à lui, il refuse tout. Comme par exemple, quand à la maison, on fait les devoirs ensemble, sinon tous les trois. Quand je lui pose des questions, il répond toujours, mais toujours à côté. Les mêmes questions, je les pose à sa sœur. Quand parfois sa soeur n'a pas de réponse, lui, c'est lui qui répond. Je ne sais pas si je m'explique.
Oui, on comprend bien. On imagine bien la scène.
Oui.
Qu'est-ce qui vous préoccupe donc, cette question où il répond pas aux bonnes questions, mais on sent bien qu'il est intelligent et qu'il est capable d'y répondre. Qu'est-ce qui vous préoccupe d'autre?
Ce qui me préoccupe, c'est que, par exemple, quand il est seul avec sa sœur au salon, tout seul, il peut lui raconter tout un dessin animé, mais dans un parfait, je souligne ça, dans un parfait français, et même dans les détails. C'est-à-dire que c'est un enfant qui a une capacité de tout retenir, comme ça, très 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 vite, mais il est toujours paradoxal, c'est ça ce qui m'inquiète. C'est-à-dire que quand on lui pose lui la question, quant à lui, il sait rien faire, mais quant à l'autre fait une bêtise, tout de suite il réagit, mais
Et vous avez l'impression que le fait que sa maman soit partie en formation depuis déjà plusieurs années à La Réunion, ça pose un problème, ça lui manque?
Je pense oui, parce que comme par exemple quand il va dormir, il faut toujours qu'il ait quelque chose de sa mère. Quand il parle, il imite sa mère. Quand il s'assoit, il imite sa mère. Il devient un peu féminin, si vous voyez ce que je veux dire. Et pourtant...
Donc il vous inquiète, votre fils. Alors je sais pas, c'est très difficile de donner comme ça des conseils à distance. Professeur Philippe Duverger, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Mohamed?
Ben bonjour, oui, je comprends votre inquiétude. Il a 9 ans, c'est ça
Oui.
On a l'impression qu'en effet, beaucoup de ces symptômes, que ce soit ces difficultés de sommeil, ce besoin d'être rassuré, ces peurs de se tromper, etc., témoignent quand même, en effet, d'une anxiété. Il a pas l'air d'avoir beaucoup confiance en lui. Il faudrait en effet peut-être le rassurer sur ses capacités, ses ressources, ses relations avec les autres et peut-être le rassurer sur le fait que c'est un grand garçon. On a l'impression qu'en effet là il reste dans un comportement de tout petit.
Et ça veut dire parler avec lui de ça?
Et alors peut-être que ce serait bien en effet de pouvoir parler avec lui. Comment il s'appelle?
Il s'appelle Nasmir.
D'accord.
Voyez-vous, docteur, le problème c'est que moi avec eux,
oui,
je ne prends jamais une décision à leur place. Je laisse toujours décider. Par exemple, c'est eux qui choisissent leur jeu, c'est eux qui... Moi, je suis là pour juste les observer et être là, mais j'aime pas m'interposer.
Décider à sa place. Alors attendez, restez en ligne avec nous, Mohamed, parce qu'en fait, les informations arrivent. Donc, vous restez bien au téléphone. Le professeur Philippe Duverger a encore des choses à vous dire. Donc, on se retrouve dans 3 minutes, juste après les informations. Je vous redonne le téléphone, le 33 1 84 22 75 75.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue.
bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons du travail des pédopsychiatres avec le professeur Philippe Duverger, qui est chef du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au CHU d'Angers. Il a publié « La petite voiture rouge au fond de mon tiroir » et « Autres rencontres extraordinaires » aux éditions Anne Carrière. Si vous avez envie d'apporter un témoignage ou lui poser des questions, appelez-nous au 33 1 84 22 75 75. Et juste avant les informations, on était en ligne avec Mohamed de Moroni aux Comores qui nous racontait les difficultés qu'il a. Il est père de deux jumeaux, son épouse est partie en formation à La Réunion et son fils donc qui a 9 ans lui pose quelques difficultés. Et juste avant les informations, il était en train de nous dire « je le laisse décider, je le laisse faire » et je vous ai vu un peu tiquer, professeur Philippe Duverger.
Mais je pense que c'est vrai que c'est sûrement difficile pour un petit garçon d'avoir un papa comme ça qui fait le rôle de papa et le rôle de maman puisque sa mère n'est pas là et
chouette papa qui s'occupe des devoirs apparemment
qui est super mais c'est sûrement important pour un enfant de mettre des limites, de mettre des repères et un enfant ne peut pas décider de tout, sinon il est dans une toute puissance et ça peut même être angoissant et à ce moment-là il peut même se replier parce que jusqu'où ça peut aller. Je crois que c'est sûrement important de rassurer ce papa dans son rôle de père en lui disant qu'il y a des limites, il y a des repères, il y a des choses, voilà, qu'il peut en parler avec ses enfants, mais que les enfants ne décident pas de tout.
Et vous voyez beaucoup ça autour de vous, justement, des parents qui n'osent pas finalement être un peu fermes, décider, parce qu'on veut écouter l'enfant et c'est une bonne chose, laisse trop l'enfant décider.
Oui,
c'est une tendance actuelle.
Oui, avec la peur qu'au fond, à partir du moment où on dit non à un enfant, cet enfant pourrait penser qu'il ne nous aime plus, hein, et pour pas le décevoir, eh ben, au fond, on voudrait lui faire plaisir tout le temps. Et donc, c'est l'enfant roi qu'on connaît, hein, l'enfant qui devient celui qui dirige la famille, quoi, comme.
Mohamed, juste une dernière question à vous poser. Est-ce que vous avez essayé d'aller consulter un psy pour vous faire aider?
Malheureusement, ici, on n'en a pas.
Il n'y en a pas du tout aux Comores?
Non, pas du tout. Par contre, je voudrais rectifier une petite chose là. Je laisse mes enfants décider. Je les surveille. Mais il arrive des moments où je suis ferme. Et je dis, par exemple, aujourd'hui il n'y a pas de télé. Aujourd'hui il n'y a pas de jeu. Il y a des fois où je suis quelqu'un.
Ouais, vous mettez des limites.
Oui. Maintenant, je n'arrive pas à comprendre pourquoi.
Et vous avez essayé d'en parler, comme le disait le professeur Philippe Duverger, vous avez essayé d'en parler avec votre garçon?
On parle beaucoup, on sort ensemble, il va jouer au foot, je vais avec lui. Des fois, je par exemple, quand il va aller jouer, j'aime pas trop être là. Mais des fois, il me dit, viens. Et justement, quand il me dit de venir, il prend la décision, ça me fait plaisir que je me dis, tiens, c'est l'occasion peut-être de changer quelque chose. Comme par exemple, un autre exemple, il voit un jeu, il me dit, je voudrais ça. Ça me fait plaisir qu'il décide quelque chose.
S'exprime.
C'est pas un chantage, mais après je lui dis, d'accord chérie, tu veux ça, mais moi au retour, je voudrais que tu fasses ça.
Professeur Philippe Duverger, je veux bien une réaction par rapport à ce que vient de dire Mohamed. Ce que j'entends dans ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'il faut essayer de parler là de ce qui ne va pas, en fait.
Oui. Oui, mais pas que. Il faut aussi parler de ce qui va bien. C'est-à-dire qu'il faut aussi.
On peut parler foot.
Non, mais parler foot, mais aussi parler de ses qualités. C'est vrai qu'avec le pédopsychiatre, on parle surtout et toujours de ce qui ne va pas. Et que les enfants vont entendre, ben voilà, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça. Mais finalement, il y a aussi des choses qui vont bien. Et il ne faut peut-être pas oublier de voir aussi toutes les ressources et les qualités, les capacités de l'enfant. Et souvent, d'ailleurs, elles sont étouffées par ce qui ne va pas. Là, je dirais à Mohamed que c'est sûrement important d'essayer de partager des choses avec son fils. Voilà, pas uniquement d'être spectateur, hein, du match de foot, mais de jouer au foot avec lui. Si, si on est juste là qu'en spectateur passif, qui attend simplement que son fils lui demande de venir, non, je crois qu'il faut, il faut aussi jouer au foot avec lui, partager des choses avec lui. Et là, justement, progressivement, dans ces échanges, dans ce partage, ben, faire en sorte qu'il prenne plus confiance en lui. Mais pour faire, pour qu'un enfant ait confiance en lui, il faut que déjà on lui fasse confiance. Ça, c'est fondamental. Mais oui, de partager des choses avec lui, de parler avec lui, et puis surtout d'essayer en effet de retrouver une dynamique familiale plus équilibrée avec une maman qui est un peu loin.
C'est toujours compliqué.
C'est compliqué.
Merci beaucoup Mohamed en tout cas de ce témoignage. J'espère que ces conseils auront pu vous aider. On va essayer de voir quand même si on trouve pas des contacts de psy au Comores. S'il y en a qui nous écoutent d'ailleurs, on veut bien qu'ils nous contactent. Le téléphone c'est le 33 1 84 22 75 75. On a au téléphone le docteur Ali Djounkandi qui est pédopsychiatre au centre de neuropsychopathologie de l'université de Kinshasa en République démocratique du Congo. Docteur Ali Djounkandi, bonjour.
Bonjour madame Ferredon.
Merci d'être en direct avec nous dans Priorité Santé. Juste pour commencer quand même un mot par rapport aux événements, on vient d'entendre parler de nouveau dans la tranche info juste avant nous. Vous, du coup, en ce moment, je crois que vous ne pouvez pas aller travailler, vous ne pouvez pas consulter.
Non, non, je suis présentement à la maison, surtout à l'université, ça ne va pas en tout cas.
Ça ne va pas et du coup vous...
Oui, oui, nous n'avons pas pu, on ne pouvait même pas sortir, donc je suis là à la maison.
Donc vous êtes là à la maison et vous ne pouvez pas consulter, ça veut dire aussi que vos patients ne peuvent pas venir vous voir. Quels sont les principaux motifs de consultation en pédopsychiatrie en ce moment en République démocratique du Congo?
La première cause de consultation, ce sont des états d'agitation, l'instabilité pour les enfants. Vous avez parfois les pertes de relations sociales ou la désocialisation que peuvent présenter les enfants et les adolescents, le repli social et surtout la déperdition ou l'inadaptation scolaire. Et aussi souvent, vous avez les bizarreries de comportement et aussi la consommation des substances psychoactives, déjà à cet âge-là.
En gros, les principaux motifs de consultation, professeur Duverger, est-ce que c'est la même chose pour vous à Angers?
Oui, il y a beaucoup d'états d'agitation, beaucoup d'instabilité psychomotrice, hein, avec des enfants qui vont plutôt exprimer leur mal-être par des comportements comme ça, de désordonnés, d'agitation, d'instabilité, de perte d'attention, avec les répercussions scolaires qui vont avec. Et c'est vrai, souvent, des conduites à risque. Des conduites à risque, notamment chez les plus grands, alors avec des prises de substances, mais aussi avec des comportements à risque sur la route, ou même jusqu'à mettre sa vie en danger. On voyait les scarifications, ça peut être aussi prise de médicaments ou tentative de suicide. C'est les principales demandes de consultation en urgence, en tous les cas.
Hein, voilà. Docteur Njoukandi, ces prises de risque, vous les voyez avec, entre autres, ce qu'on appelle les enfants des rues?
Oui, nous les avons parce que quand vous parlez de pédopsychiatrie, nous voyons précisément les enfants qui sont amenés dans des centres psychiatriques. Or, nous, l'approche de l'enfant, nous prenons plus une approche santé mentale où beaucoup de problèmes que les enfants posent ne sont pas ramenés dans des centres hospitaliers. Ce sont plus les problèmes que nous rencontrons dans la communauté. J'avais eu à mener une étude sur les adolescents dans la communauté et là, ça nous a permis d'identifier les problèmes psychosociaux qu'ils ont eu à poser. Entre autres, le problème des enfants de la rue, problème des comportements antisociaux, des enfants sorciers, et aussi la problématique des filles-mères, grossesse et maternité précoce, et aussi les problèmes de la maltraitance.
Et quelle prise en charge? Oui. Quelle prise en charge vous arrivez à proposer? C'est, j'imagine aussi une prise en charge vraiment basée sur la parole.
Oui, absolument, absolument. Pour ceux qui sont amenés à l'hôpital, on a tendance à se focaliser plus sur la prise en charge biologique, c'est-à-dire l'usage des psychotropes. Mais dans la communauté, il y a certaines interventions psychosociales, entre autres la parole. Et là, beaucoup de gens qui s'occupent de ces adolescents à problème sont des gens qui ne sont pas formés, ils sont formés sur l'état. Parce qu'il y a des organisations internationales qui appuient les différentes ONG qui prennent en charge les enfants en situation difficile. Mais il est à noter que nous, quand nous avons eu à travailler avec ces adolescents, nous avons eu à utiliser un outil, le symptôme checklist, qui nous a permis d'identifier une dimension psychopathologique qui était plus rencontrée chez ces enfants, c'était la sensibilité interpersonnelle. Et en réalité, montrer les difficultés que les enfants avaient pour pouvoir établir et maintenir des relations interpersonnelles proches, à telle enseigne que cette difficulté de pouvoir manifester leur malaise, parce que ça dénotait quand même d'une certaine détresse psychologique, qui faisait que ces enfants ne pouvaient pas exprimer leur malaise et leur mal-être. Et il y avait maintenant des problèmes d'incompréhension entre ces enfants et les gens qui devraient le prendre en charge. Et la finalité, c'est que lorsqu'ils sont pris en charge, nous constatons le phénomène certaines récidives où les enfants qui, par exemple les enfants de la rue, qui retournent dans leur famille respective, mais qui reviennent encore dans la rue parce que le vrai problème moteur qu'ils ont y apposé n'a jamais été identifié.
Et dont ce problème de relation enfant-parent qui du coup n'a pas été réglé. Comment justement est perçu votre travail, ce travail basé sur la parole? Comment les Congolais le perçoivent?
C'est l'aspect général même de la conception même qu'on a de la santé mentale. Parce que la psychiatrie n'est qu'un aspect parmi les trois autres aspects de la santé mentale. Et ce que nous constatons ici par rapport à cette conception, c'est de même partout ailleurs, et plus grave encore même nos frères qui sont ailleurs. La conception ici, c'est le fait que tout problème qui se présente face à l'enfant est taxé de sorcellerie. Et c'est ce qui embrouille même, qui pose que ces enfants qui posent problème, ils ont un parcours thérapeutique chaotique. Le plus souvent, les gens qui sont mis au premier plan ont des difficultés pour poser le problème des enfants, simplement parce que le système de santé chez nous, il n'existe pas de carnet de santé pour suivre l'évolution des enfants. Le carnet se limite par la mesure anthropométrique, c'est-à-dire suivre la taille, le poids de l'enfant. On ne suit pas l'évolution psychomotrice, l'évolution cognitive, l'évolution sociale. À telle enseigne que toutes les pathologies qu'on pouvait identifier à la première comme à la deuxième enfance ne peuvent pas l'être. La conséquence, c'est que les pathologies qu'on pouvait déjà identifier à ce moment-là sont posées à l'âge scolaire, voire même à l'âge adulte. Par exemple, les troubles du spectre autistique. Un des motifs aussi, c'était des troubles de langage, des troubles que les enfants amènent. On amène les enfants pour des troubles de langage. Et les gens s'étonnent tellement de voir que l'enfant ne parle pas alors que l'enfant écoute. Les parents, quand ils amènent, ils disent que l'enfant fait semblant. Et avant d'arriver à l'hôpital, ils commencent d'abord par l'église. Et les gens qui ont eu le monopole de cet usage de la parole, de la psychothérapie, est réduit maintenant aux hommes des églises. Quand on trouve que c'est la sorcellerie, on n'amène pas l'enfant à l'église, on l'amène auprès des hommes des dieux. Et eux, quand ils prient, quand ils trouvent que ça ne va pas, et surtout quand l'enfant s'agite, c'est à ce moment-là qu'on l'amène à l'hôpital.
Tout ça, ça ne facilite pas votre travail, on comprend bien. C'est pas simple. Juste une réaction, professeur Philippe Duverger. On l'entend bien, des consultations trop tardives, mais j'imagine que vous devez voir ça aussi, vous, des enfants qu'on vous amène relativement tardivement, qu'on aurait pu vous amener plus tôt.
Oui, alors peut-être pas avec le même parcours chaotique ou le même cheminement.
Parce que vous êtes un peu plus de psy en plus.
Voilà,
en France,
il y a beaucoup plus de psychiatres et de psychologues. Mais c'est vrai que parfois, comme le disait notre collègue congolais, les enfants arrivent très tardivement. Je crois que vous avez dit, l'image du pédopsychiatre a changé en France. Les gens restent quand même ambivalents, c'est-à-dire à la fois, oui, peut-être que mon enfant en aurait besoin.
Ouais, mais enfin quand même, il est pas fou.
Mais voilà, et il est pas fou, alors on va attendre un peu, ou on va essayer quelque chose. Il a des troubles du sommeil et voilà, on va essayer de régler ça d'une autre manière, avec de la tisane, avec des voilà. Bref, ça
comment
peut se comprendre.
Comment on peut sortir de cette image du psy qui soigne les fous, et quand on va voir un psy, c'est qu'on est fou. Comment on peut sortir de ça?
Peut-être
on
n'y
arrive
en
pas.
Lisant,
ça fait 10 ans qu'on le répète. On n'arrive pas à sortir de ça.
C'est en tous les cas pour ça que j'ai écrit ce livre là chez Anne Carrière, La petite voiture rouge au fond de mon tiroir. C'est une manière un peu
démystifier,
oui, essayer d'expliquer simplement qu'au fond, il y a pas de risque.
Oui.
Il y a pas de risque.
Il y a pas de risque à aller
de
voir
un pédopsychiatre. Ça peut même être une vraie rencontre et à ce moment-là, ça peut ouvrir des portes.
C'est ça, il n'y a pas de risque. C'est peut-être une bonne idée. Il n'y a pas de risque.
Mais oui, pendant longtemps, la psychiatrie, c'est celle qui enfermait. C'était ça l'image de l'asile. On enfermait les fous. Moi, je dis qu'au fond, le pédopsychiatre, c'est pas un docteur qui doit enfermer, mais un docteur qui doit libérer des contraintes psychiques. Hein. Moi, je me voit plus comme un artisan de la liberté. Liberté de penser, liberté, hein, voilà, d'être bien avec soi-même. Je crois que c'est voilà, il n'y a pas de risque à aller voir un pédopsychiatre. Mmh. Ça peut même être une chance. Ça ne veut pas dire qu'il faut y aller pour n'importe quoi et à tout moment, hein. Faut pas tomber dans l'excès inverse. Mais, je crois qu'il faut aider à changer l'image, oui, du.
Des psy.
Oui,
on est d'accord. Docteur Njokandi, j'ai juste une dernière question à vous poser. On l'a évoqué, au début de cet entretien. Des affrontements meurtriers ont eu lieu en début de semaine entre forces de l'ordre et des jeunes qui sont opposés au projet de révision de la loi électorale. Est-ce que vous sentez déjà un impact de tous ces événements, je dirais, sur le psychisme des gens de votre entourage? On a bien compris que vous ne pouviez pas consulter en ce moment, mais j'imagine que vous avez quelques coups de fil de vos patients. Docteur Njokandi? Alors oui, Docteur Njokandi, la ligne s'est totalement dégradée, mais essayez quand même, je pense que vous avez entendu ma question, voir si vous pouvez y répondre.
Oui, à chaque comportement, aussi bizarre soit-il, il y a toujours une raison. Quitte à nous, les responsables, de pouvoir trouver et de rectifier notre comportement pour essayer de normaliser le problème face auquel nous pouvons nous retrouver. Ceci revient à dire que cette situation que nous traversons, les gens qui sont mis au premier plan le plus souvent, ce sont les adolescents et les enfants. La difficulté, et je suis aujourd'hui, je peux me dire que si nous avons à avoir la dimension de sensibilité interpersonnelle auprès des adolescents, parce que ces adolescents traduisent en fait la réalité du vécu familial. Or, une nation n'est constituée que de l'ensemble des familles. Et si ces enfants posent problème, ça revient à dire que chez les adultes, nous pouvons aussi rencontrer le même problème de sensibilité interpersonnelle. Et tous ceux que nous sommes en train de vivre dans notre pays, ce sont des troubles de sensibilité interpersonnelle. Quand on vous dit il faut négocier, on a plusieurs fois négocié, mais on n'a jamais parlé des vrais problèmes. Donc, je pense, pour sortir de cette difficulté de sensibilité interpersonnelle, il nous faut, même à tous les niveaux, que ce soit chez ces adolescents en situation difficile, dans notre vie quotidienne, à l'université, dans la vie politique, une thérapie interpersonnelle. Simplement parce que cette thérapie nous permettrait, en ce moment-là, d'atténuer certains problèmes, d'améliorer le fondement social et relationnel et en optimisant bien sûr les capacités de communication ainsi que l'adaptation de la vie sociale.
Si je vous comprends bien, docteur Njokandi, ces jeunes finalement sont juste révélateurs, ce qui se passe avec la jeunesse en ce moment, révélateurs d'un malaise de société. Merci beaucoup d'être intervenu et surtout bon courage à vous. Je rappelle que vous êtes pédopsychiatre au centre de neuropsychopathologie de l'université de Kinshasa en République démocratique du Congo. Professeur Philippe Duverger, c'est intéressant ce qui est soulevé là parce que en fait il suffit pas de parler, il faut vraiment parler et parler en profondeur.
Parler en profondeur, ça veut dire qu'en effet, parler, c'est pas juste comme ça, prendre du plaisir à décliner des choses. Ça, c'est vraiment, c'est pour ça que c'est difficile d'ailleurs. Mettre des mots sur des ressentis, sur des problèmes, sur des conflits, sur des difficultés. C'est vrai qu'il faut un certain courage pour oser affronter ça. Mais
ça vaut le coup.
Mais ça vaut le coup, et je crois que c'est vraiment grâce à ça que peut-être les choses peuvent avancer.
Priorité santé sur RFI.
Et on continue à parler du travail du pédopsychiatre avec le professeur Philippe Duverger. Je vais vous donner la parole, Sylvie Hasbrouck. Bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez sur les émotions. Vous venez régulièrement d'ailleurs mettre votre grain de sel dans cette émission. Et vous allez aujourd'hui nous parler des doudous parce que finalement, peut-être que c'est le premier confident, la première personne à qui on parle, son doudou.
Ben c'est ça, Claire, en fait. Hein, on ne va pas présenter la tradition du doudou. Témoignage de soutien. Cet objet transitionnel qui apporte du réconfort. Jusque-là, je ne surprends personne. Mais moi, j'en ai trouvé quelques-uns qui sont vraiment un petit peu particuliers, plus en soutien, on va dire, téléguidé que ceux que les mamies récoltent pour les enfants.
Et évidemment, vous êtes allé, comme font beaucoup de gens, sur Internet, et évidemment, vous avez trouvé des doudous carrément très particuliers. Je suis assez hallucinée de ce que vous avez trouvé.
C'est ça, Claire. Désormais, on ne laisse pas toujours le libre arbitre à un enfant pour choisir son objet transitionnel. Non, on lui programme à l'avance. Alors d'abord, la première série que j'ai trouvée sont des doudous qui sont atteints de maladies psychiatriques qui ont été inventées il y a quelques années par l'Allemand Martin Kitzsteiner. Ce sont des animaux. Par exemple, il y a Dub, qui est une tortue totalement dépressive au regard particulier. particulièrement tombant.
Et triste.
Voilà, il y a aussi Sly, qui est un serpent qui est victime d'hallucinations. C'est-à-dire qu'en fait, quand on joue avec ce serpent en peluche, quand il se retourne et qu'il tombe nez à nez avec sa queue, il a un hochet qui est accroché à sa queue, et donc il a les yeux tout à fait surpris, il est effrayé, et c'est fatigant d'avoir des surprises désagréables en permanence. Il y a Crocodile Croco, qui ne quitte jamais son petit matelas de survie, parce qu'il a une phobie, celle de l'eau, et quand les copains ont le pied marin et la réputation de mangeur de nageur, non seulement ça fait peur, et en plus, ça donne de la honte. Et puis, il y a Dolly aussi, qui est un mouton schizophrène. Quand on ouvre son ventre, un loup sort, et du coup, ça fait une seconde peluche. Et donc, on passe de l'un à l'autre. Donc, c'est pareil, on passe d'une émotion délicate à une émotion agressive. Avec le même doudou. Voilà, donc le doudou traditionnel qui est censé soutenir l'enfant dans son passage de la mer au monde extérieur, là, ces peluches, elles posent question quant à ce fameux monde extérieur.
Alors, et je veux juste pas réagir, le professeur Duverger, tout de suite, qui a l'air halluciné. Vous n'avez pas vu ça. Vous allez regarder sur Internet, vous allez
je
voir.
Je vais aller voir. Je pense qu'en effet, ce sont des objets, mais qui sont tous sauf des objets transitionnels. C'est-à-dire que comment peut-on parler des objets comme ça qu'il soit deux fois doux, puisque le doudou, c'est un objet, en tous les cas, qui doit être justement doux et même particulièrement doux. Alors, c'est vrai que vous nous faites peur avec
ça. Ah, ben, c'est ça.
Et alors, vous en avez trouvé qu'il y avait des microbes, c'est ça?
C'est ça. Sur le site Giant Microbe, donc microbe géant. Alors, en fait, l'idée, c'est de imaginer quand vous regardez au microscope un microbe, et puis vous l'agrandissez en 1 million de fois plus grand. Ça donne une petite peluche de 10 cm qui ressemble exactement au microbe réel d'une pathologie ou d'une maladie. Donc ça donne des peluches un peu auréolées ou avec des filaments, avec des couleurs très très flash. Et donc du coup, vous avez dans votre sac à main votre grippe H1N1, votre tétanos, votre herpès, votre ulcère à l'estomac. Notre petit souci de santé va se sentir beaucoup moins sale. Et donc, alors sur ces deux sites, il n'est pas indiqué à qui s'adressent ces peluches, hein. C'est-à-dire que c'est présenté comme des doudous, mais finalement, si à 36 ans vous voulez avoir votre microbe, votre globule blond, votre globule rouge, vous avez tout à fait le droit. Et en même temps, et ça va un peu plus loin que le microbe, puisqu'on trouve aussi sur ce site le dit microbe qui est associé au mal au ventre, au mal aux oreilles. Et alors il y en a un qui est quand même très étrangement nommé la vie sur Mars. Donc je ne sais pas si c'est un microbe. Et donc
gens échangent entre eux, que ceux qui ont acheté ces doudous, et parlent entre eux sur Internet.
Oui, oui, bizarrement. Alors, les propriétaires ont l'air d'avoir trouvé une solution tout à fait salvatrice, qui est très inquiétant. Toutefois, Claire, si vous voulez en offrir, je vous propose d'être prudente, parce que la notice néglige d'imposer un sens de l'humour à toute épreuve, quand même, hein, quand vous avez dans votre sac votre cancer, par exemple.
Horreur, professeur Philippe Duverger, une réaction.
Oui, ça va nous faire du travail plus tard.
Je crois que les psys sont pas encore au chômage.
Non,
le doudou est intéressant. Hein,
c'est passionnant. Ouais. C'est vraiment tout à fait important. Ça nous a aidé d'ailleurs même pour les tout petits en néonates, justement dans les services où il y a des prématurés, de mettre un tissu imprégné de l'odeur de la maman, enfin de son parfum, de voilà. Mais c'est un objet qui doit rassurer. C'est un objet qui permet justement d'avoir une relation avec l'extérieur qui soit pas soit le tout, soit rien, hein, et de se retrouver notamment dans les séparations, pas totalement isolé et donc à ce moment-là pas bien. Donc vraiment le doudou, il est là pour rassurer, il est là pour se sentir bien, il est là pour, je dirais, l'intégrer dans un monde interne qui soit rassurant et apaisant.
C'est-à-dire que s'il est lui-même totalement déprimé ou finalement menacé de mort par maladie, il est plus du tout rassurant.
Ben je pense, et s'identifier comme ça à des choses aussi horribles, c'est un peu pervers de la part des adultes. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée qu'on ait inventée aujourd'hui.
Absolument. Je suis pas sûr. On est d'accord. On a Nathalie qui nous appelle de Vienne en Autriche. Nathalie, bonjour. Alors, bonjour. Nathalie, je sens que vous avez votre poste de radio très fort derrière. Donc, il faut surtout pas. Vous allez tout entendre dans le téléphone et on vous écoute.
Oui. En fait, je voulais réagir à ce que Mohamed avait dit.
Oui.
Je voulais le rassurer, lui dire que ma fille avait 12 ans maintenant. Et qu'elle commençait à parler, elle qui était une tailleuse jusqu'à présent. Et à partir du moment où je lui ai laissé un peu plus de liberté, d'autonomie, où elle a été obligée de se prendre en charge aussi peut-être.
Et que donc il faut accepter, vous l'y rassurer, il faut du temps, professeur Philippe Duverger.
Faut du temps, et puis je crois que vous le dites bien, il faut faire confiance aux enfants. Ça veut pas dire une confiance aveugle, hein, mais que en faisant confiance aux enfants, on leur permet eux-mêmes d'avoir confiance en eux. Et donc peut-être justement, ben à un moment donné, quand c'est plus difficile ou quand il y a des impasses, ben de trouver des solutions, trouver la clé. quand c'est trop difficile peut-être de rencontrer un pédopsie, hein. C'est un peu l'idée de ce livre et de ce travail, de montrer que peut-être ça permet de relancer une dynamique qui était à un moment donné figée, qui était à un moment donné arrêtée et qui faisait souffrance. Voilà, c'est
Merci beaucoup Nathalie, bon courage à vous. Pour terminer, je voudrais qu'on parle de ce titre, de la petite voiture rouge au fond de mon tiroir, parce que cette petite voiture rouge, elle est effectivement au fond de votre tiroir. C'est un enfant qui vous l'a donné.
Oui, c'est un petit garçon qu'on m'a demandé de rencontrer dans un service d'oncologie pédiatrique, c'est-à-dire où on soigne les cancers de l'enfant. Et on m'a demandé de le voir parce que l'infirmière disait « mais il ne dort pas la nuit ». Et donc avec l'idée que peut-être je pourrais prescrire quelque chose pour le faire dormir. Enfant qui a une maladie grave, hein, mortelle donc, et tout le monde savait qu'à un moment donné il pourrait mourir. Il est d'ailleurs décédé. Quand je le rencontre, c'est vrai que je suis touché par ce petit garçon, hein, qui, je le dis dans le livre, va me prêter une place, va me permettre un peu de le rencontrer, et je vais pas lui prescrire de médicaments, mais l'apaiser en discutant avec lui, et il va la nuit d'après dormir comme un loir. Mais il va demander à me revoir, et je vais le voir comme ça régulièrement. On va faire plein de choses, et puis un jour il va me confier sa petite voiture. C'est peut-être un objet transitionnel, justement.
C'est peut-être votre doudou à vous.
En tout cas, c'est ce que Marcel Ruffo dira dans la préface, peut-être une cicatrice de pensée, en tous les cas un souvenir qui va rester au fond de mon tiroir. Il va me donner sa petite voiture et il va décéder dans la nuit qui suit. Et c'est vrai que je la garde comme un souvenir d'une belle rencontre.
Vous l'avez gardée, cette petite voiture rouge, au fond de mon tiroir. C'est le titre de votre livre, professeur Philippe Duverger, qui paraît aux éditions Anne Carrière. Demain, on va rester sur un sujet psy d'ailleurs. On va parler des troubles bipolaires. Un téléphone si vous avez envie de participer, le 33 1 84 22 75 75.